VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
17h30 en temps universel, le monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce mercredi 6 septembre, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est prolongent le mandat de leurs forces déployées dans l'Est de la RDC. Le premier sommet africain sur le climat adopte la déclaration de Nairobi pour une croissance verte sur le continent. Au Nigeria, la justice rejette la contestation de l'opposition sur les résultats de la présidentielle. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a effectué une visite surprise à Kiev avec une nouvelle promesse d'$1 milliard à l'Ukraine. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Les pays d'Afrique de l'Est ont prolongé le mandat de leurs forces en République démocratique du Congo. La force régionale a été déployée dans l'Est de la RDC pour tenter de ramener la paix dans la région, confrontée à des attaques récurrentes des groupes armés. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
À l'issue d'un sommet mardi à Nairobi, les 7 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont annoncé dans un communiqué qu'ils sont tombés d'accord pour prolonger la durée du mandat de la force régionale jusqu'au 8 décembre. Cette force de plusieurs milliers de soldats s'est déployée en novembre 2022 dans l'Est de la RDC, en proie aux violences de dizaines de groupes armés et rébellions depuis près de 30 ans. Sa cible s'est resserrée pour se focaliser sur les zones d'opération des rebelles du M23, au nord et au nord-est de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. L'avenir de cette force a été mis en question après des critiques du président Félix Tshisekedi, mais la communauté est-africaine a finalement décidé en juin de prolonger son mandat de 3 mois. La force est-africaine a repris certaines zones occupées par le M23, mais n'a pas jusqu'à présent réussi à contrecarrer la rébellion ni à venir à bout des autres groupes armés.
Au Tchad, un infirmier militaire français a été tué par balle mardi. Il a tué un soldat tchadien qu'il soignait et qu'il a agressé au scalpel dans une base des forces françaises à Faya-Largeau, dans le nord du pays, a annoncé le gouverneur local. Une enquête conjointe des armées tchadiennes et françaises est en cours pour déterminer les circonstances de l'incident, a indiqué le général Maïdé Kébir, gouverneur de la région du Borku, dont Faya-Largeau est le chef-lieu. En Guinée, un collectif d'opposition rapporte la mort de 4 jeunes lors de heurts avec les forces de sécurité, mardi, second anniversaire de la prise du pouvoir par les militaires. Les décès de ces jeunes portent à 30 le nombre de personnes tuées par les forces de sécurité depuis juin 2022, selon le collectif. La junte conduite par le colonel Mamadi Doumbouya a interdit les manifestations en mai 2022. Le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO dit ne pas vouloir répéter au Niger les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina où des périodes de transition ont été négociées. Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, l'a déclaré dans une interview ce mercredi. Au Nigeria, la justice a rejeté ce mercredi une requête du Parti travailliste contestant les résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu. Les précisions de Mouhamadou Mfa.
Cette requête est sans fondement, a indiqué l'un des juges après plus de 6 heures de lecture détaillée du jugement. Les juges ont rejeté toutes les réclamations du candidat du Parti travailliste, Peter Obi, qui dénonçait des fraudes lors de ce scrutin. Dans un premier jugement, les 5 juges de la Cour d'appel d'Abuja ont invalidé la requête du parti Allied People's Movement, qui demandait aussi l'annulation du scrutin du 25 février. Près de 25 millions de Nigériens avaient voté dans le calme. Le candidat du Congrès des progressistes et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. Il a devancé l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP et le candidat travailliste Peter Obi, qui ont obtenu respectivement 29 et 25%. Les requérants ont la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême, selon leurs avocats.
Le premier sommet africain sur le climat s'est achevé mercredi avec l'adoption d'une déclaration de Nairobi destinée à concrétiser le potentiel du continent pour une croissance verte. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les pays africains demandent à la communauté internationale de contribuer à augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable du continent de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 gigawatts d'ici 2030 pour lutter contre la précarité énergétique et de renforcer l'approvisionnement mondial en énergie propre et rentable. Il propose également d'établir une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique, comme l'allègement de la dette, dont le fardeau pèse lourdement sur leurs économies. Ils ont appelé aussi les dirigeants de la planète à se rallier à la proposition d'un régime de taxe sur le carbone. Lors de ces trois jours de réunion dans la capitale kényane, 23 milliards de dollars de promesses d'investissement dans les énergies renouvelables ont été faites, a affirmé le président kényan William Ruto, dont 4,5 milliards de dollars de la part des Émirats arabes unis. Le sommet de Nairobi a lancé 4 mois de réunions internationales qui vont culminer avec la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28 prévue à Dubaï fin novembre, où s'annonce une vive bataille sur la fin des énergies fossiles.
En Éthiopie, une quinzaine de membres de l'opposition, dont 3 présidents de différents partis au Tigré, ont été arrêtés puis relâchés à la veille d'une manifestation prévue contre le TPLF, parti au pouvoir dans cette région du Nord. Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé mercredi se porter candidat à sa réélection devant une foule rassemblée à Antananarivo lors d'une cérémonie en grande pompe dans le plus grand stade du pays. La présidentielle doit se tenir le 9 novembre. Monsieur Rajoelina a pris le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État qui a chassé l'ex-président Marc Ravalomanana, interdit de candidature par la communauté internationale en 2013. Rajoelina a finalement été élu en 2018. Monsieur Ravalomanana est également candidat au prochain scrutin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Kiev pour une visite surprise. Il devrait annoncer une nouvelle aide d'$1 milliard à l'Ukraine après une nouvelle nuit de frappes russes contre ce pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Lors de sa rencontre avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, Anthony Blinken a réaffirmé la détermination des États-Unis à soutenir Kiev pour aboutir à la libération des territoires occupés. Nous voulons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin à long terme et de forts moyens de dissuasion, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Il devrait annoncer un nouveau financement américain pour l'Ukraine de plus d'$1 milliard. Le Kremlin a réagi en accusant les États-Unis de maintenir l'Ukraine en état de guerre, assurant que l'assistance américaine ne peut pas avoir une influence sur l'issue de l'opération militaire spéciale. Anthony Blinken a aussi rencontré le président Volodymyr Zelensky pour discuter de la contre-offensive et de la future reconstruction du pays. Cette visite intervient alors qu'au moins 16 personnes ont été tuées ce mercredi et 31 autres blessées par un bombardement russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine à une trentaine de kilomètres de Bakhmout.
L'Inde accueille le sommet du G20, C9 et 10 septembre avec le thème « Une terre, une famille, un avenir », mais les dirigeants du groupe sont plus que jamais partagés. Les présidents russes et chinois vont même snober la réunion. Le président américain arrivera en Inde avec la volonté de renforcer les alliances au sein du G20 et d'offrir un soutien aux pays en développement. Une porte-parole de l'Union africaine a indiqué que l'UA n'a pas encore reçu d'invitation pour ce sommet auquel l'Inde et les États-Unis souhaitent intégrer l'organisation panafricaine. Le G20 rassemble 19 pays et l'Union européenne qui représentent ensemble 80% de l'économie et les deux tiers de la population mondiale. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Mouramadou Oumfa.
Les dirigeants africains ont appelé mercredi la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique via des investissements et une réforme du système financier international. Lors de la clôture du premier sommet africain sur le climat à Nairobi, le président kényan William Ruto a déclaré que 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont été promis durant les 3 jours de ce sommet. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a entamé sa visite en Eswatini avec la promesse de soutenir le pays dans son projet de se constituer une réserve stratégique de pétrole. Elle a signé mardi avec le roi Moati III un accord sur un projet d'installation pétrolière. Selon la compagnie pétrolière nationale de l'Eswatini, cette installation garantira un approvisionnement en carburant ininterrompu au cas où le pays ne serait plus en mesure d'importer du carburant. La Russie a annoncé qu'elle va continuer à réduire ses exportations de pétrole et l'Arabie saoudite sa production jusqu'à fin 2023. Après ces annonces, les cours du Brent ont dépassé la barre symbolique des 90 dollars le baril pour la première fois depuis novembre 2022. Cette mesure vise à maintenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers, a assuré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Du football pour commencer, André Onana est de retour en sélection camerounaise.
Oui, le Lion indomptable a pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers en vue de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN prévue en janvier et février prochain. Le retour du sociétaire de Manchester United en sélection 10 mois après l'annonce de sa retraite internationale était très attendu du public à Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Jelentap.
André Onana a été la principale attraction du public lors de la séance d'entraînement de ce mardi. Francis Abolo, supporter des Lions indomptables.
À ce stade de la compétition, il nous faut un gardien comme lui, qui a de l'expérience.
Florence Nana, une autre fan a quant à elle revu un André Onana avec le même style de jeu.
Il reste le même joueur, on va devoir se faire avec son style de jeu.
Un peu réservé durant les 2 heures d'entraînement, André Onana a cependant gratifié le public de quelques transversales et belle relance balle au pied. Gaël Ondois, milieu du terrain des Lions indomptables.
Si on peut encore avoir sa présence dans l'équipe, je pense que ce n'est qu'un plus pour nous, ses coéquipiers et pour toute la nation.
Même le Benjamin de la sélection nationale, Eliot Djongwe, se dit rassuré de la présence du portier international camerounais.
Nous savons qu'il est un grand gardien, l'un des meilleurs au monde. Il rendra l'équipe plus forte et nous sommes contents de l'avoir.
Le Cameroun et le Burundi, en égalité parfaite avec 4 points chacun, s'affrontent mardi prochain à Garoua. Le vainqueur sera qualifié d'office pour la CAN 2023 prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Des nouvelles de la Coupe du Monde de basketball, les affiches des demi-finales sont connues.
La Serbie affronte le Canada et les États-Unis font face à l'Allemagne. Ces demi-finales se joueront vendredi. Les derniers quarts de finale se sont disputés mercredi. Le Canada a éliminé la Slovénie de Luka Doncic. Frustré, agacé, puis exclu 100-89, la star slovène, vedette des Dallas Mavericks, a été exclu à 6 minutes de la fin pour une deuxième faute technique. Après avoir réclamé une énième fois une faute contre lui, Doncic était alors à 26 points et 5 passes décisives. Avant le Canada, c'est l'Allemagne qui a arraché son ticket pour le dernier carré, après avoir mis fin à l'aventure de la Lettonie 81-79, qui a manqué le tir de la gagne à la sirène.
Et tennis, pour finir, avec les dernières nouvelles de l'US Open.
Novak Djokovic a battu Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4 en quart de finale. En demi-finale, Novak Djokovic va affronter l'Américain Ben Shelton, qui s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant son compatriote Frances Tiafoe 6-2, 3-6, 7-6, 6-2. Chez les dames, Jelena Ostapenko n'a pas pu faire fructifier plus loin sa victoire de prestige au tour précédent contre la tenante du titre Iga Świątek. La Lettonne de 26 ans s'est inclinée face à la jeune pépite américaine Coco Gauff 6-0, 6-2. Finaliste en 2022 à Roland-Garros, l'Américaine va tenter de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un majeur. Elle devra pour cela battre demain la Tchèque Karolina Muchova qui a dominé la Roumaine Sorona Cistea 6-0-6-3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a écrit au président du Conseil de sécurité pour lui demander d'accélérer le retrait de la mission onusienne dans le pays avant fin décembre, période des élections. Eddy Sango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoï.
La République a ses raisons que la raison ignore. Je pense que c'est depuis longtemps que même l'ancien président Joseph Kabila et même l'actuel qui est venu, ces deux présidents successifs à la tête du pays, ont exigé le départ de la MONUSCO pour des raisons évidentes, liées notamment à la non-exécution dans les conditions et termes voulus de la mission qui lui a été confiée à cette mission. La paix n'est jamais venue depuis plus d'une vingtaine d'années qu'elle est là. Donc le résultat, c'est que les populations civiles réclament et qu'il y a aujourd'hui de vives tensions dont certaines ont été observées aujourd'hui à Goma et à travers l'est du pays.
Qu'est-ce que vous diriez de ceux qui pensent que cette lettre du ministre des Affaires étrangères au président du Conseil de sécurité est liée aux manifestations qui se sont soldées par une cinquantaine de personnes à Goma il y a une semaine?
La demande du gouvernement congolais sur le retrait de la MONUSCO date de depuis plusieurs années. C'est depuis le régime passé que les autorités congolaises ont demandé que la mission soit qu'elle soit réduite, soit que les effectifs soient, redimensionnés, ou alors qu'on fasse la réqualification de l'objectif et de la mission de la MONUSCO. Aujourd'hui, s'il y a eu des incidents qui puissent précéder ou accompagner ou accélérer le processus, moi, je préfère que chacun puisse en tirer des leçons. Pour ma part, je pense que c'est tout à fait indiqué que les autorités congolaises soient fondées à demander le départ de la MONUSCO. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des massacres, et pardon, des troubles. Il y avait eu déjà des troubles bien avant. Souvenez-vous du cas de Beni, de certaines contrées dans lesquelles les populations déjà manifestées exigeaient le départ de la MONUSCO. Donc, il ne faut vraiment pas réduire la démarche du gouvernement aux seules préoccupations, à la seule préoccupation de pouvoir se soustraire peut-être des tensions ou de ceci, ou justifier les tensions qui se sont déroulées à Goma dernièrement.
La MONUSCO avait déjà annoncé, comme le gouvernement de la République démocratique du Congo, les retraits par étapes de leurs forces en RDC. Mais pourquoi demander l'accélération de ces retraits maintenant? On sait qu'il y a déjà des bases qui ont été fermées un peu partout, sauf dans l'Est peut-être.
J'ai devant moi ici le verbatim de la réunion de la MONUSCO d'aujourd'hui. La MONUSCO avait consenti l'idée de pouvoir se retirer de manière progressive. Et les dispositions ont été prises et ces retraits devaient se faire de manière échelonnée pour des raisons de substitution. Donc si les forces de la MONUSCO se retirent, il faut les remplacer automatiquement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc c'est ça qu'il faut accélérer. La lettre ne vient peut-être que pour exercer une pression.
Accélérer les retraits de la MONUSCO jusqu'avant décembre, c'est la période des élections. Pensez-vous que la République démocratique est prête sur le plan sécuritaire et même sur d'autres plans pour s'assumer?
Il est difficile à ce stade que je réponde à la place des autorités. Mais je constate néanmoins que les efforts à fournir pour les FARDC sont des efforts conséquents.
Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La MINUSMA, mission de maintien de la paix au Mali, a officiellement quitté Osso-Sagou, situé dans le cercle de Bankass. Après plus de 3 ans de présence, la base temporaire de la mission onusienne a été remise aux forces armées maliennes. La correspondance de Tidjani Ouedraogo à Koro.
Les dernières troupes sénégalaises stationnées à la base opérationnelle de la MINUSMA à Ogossagou, région de Bandiagara dans le centre du Mali, ont quitté leur base qu'ils ont remise aux autorités maliennes. Cet événement marque une étape importante dans le retrait de la mission onusienne du Mali. Colonel Ali Sidibé, préfet de Bankass.
c'était un jour de fête, de convivialité. Donc la population a adhéré et l'armée malienne a pu, récupérer le camp sous la présence du commandant des zones.
La mission onusienne applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme à l'aménagement déployé depuis 2013 à la demande des autorités maliennes. Selon Mamadou Zigimé, du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, l'aménagement devrait avoir un mandat plus robuste.
Nous, au niveau du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, nous avons même écrit aux Nations Unies, au bureau de l'ONU, dire que vraiment nous voulons qu'ils revoient les mandats de l'aménagement pour pouvoir insérer même la combativité. Sinon, l'interposition seulement n'arrange pas. Et voilà, beaucoup combattent l'aménagement aujourd'hui au Mali parce qu'elle ne combat pas les terroristes.
Doté d'une composante militaire et une autre civile, l'aménagement dont le rôle est de contribuer à la stabilité au Mali agissait aussi dans le domaine du social. Ici, les avis sont partagés sur le départ de l'aménagement. Alain Guindo coordonne une ONG locale et l'aménagement est le principal partenaire financier.
La structure aille à travailler avec l'aménagement dans le cadre du développement, surtout de la cohésion sociale entre les couches qui ont des tensions entre elles. Nous avons travaillé aussi à Danatele au profit de l'association des femmes. Il y avait des femmes du village, il y avait des femmes déplacées et Danatele était vraiment archi-com. Et nous avons fait un périmètre maïsé de 2 hectares pour les femmes.
D'autres comme Mamoudou Guindo sont restés sur leur faim.
Par rapport aux infrastructures, vraiment, je ne saurais vous dire qu'on a eu vraiment cet financement par l'aménagement et qu'on peut montrer vraiment les fruits. Il n'y en a pas dans les sites de Bankas.
Après Orosagou et Ber, la mission multidimensionnelle des Nations Unies poursuit son retrait programmé du Mali qui doit se terminer d'ici le 31 décembre 2023. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au cours des 8 années de crise sécuritaire au Burkina Faso, le pays a vu affluer des dizaines de milliers de réfugiés et a enregistré près de 2 millions de déplacés internes. Malgré cette situation, le Burkina a ouvert ses portes à plus de 36 000 réfugiés venant principalement du Mali. Notre correspondant Gildas Da a rencontré deux de ces réfugiés et personnes déplacées qui se sont installées à Ouagadougou.
Quartier Wemtenga à Ouagadougou. C'est ici que vivent Asmamou Boro, sa sœur et leurs enfants. Dans ce logement de fortune qu'elle loue à 10 000 francs CFA le mois, la trentenaire se démène pour mettre ses trois enfants à l'abri du besoin. Il y a un peu plus de 2 ans, Asmamou Boro a fui son village, Tony, à la frontière avec le nord burkinabé. À l'époque, le village était sous blocus terroriste depuis déjà plus de 3 ans. Et il fallait fuir pour survivre, mais avec tous les risques possibles.
En sortant, on les arrête, soit on les frappe, ou soit, même si c'est nouveau, si c'est au dos, on les fait sortir pour les voir, c'est fille ou garçon. Parce que c'est garçon, ils ne laissent pas passer.
Un euphémisme pour dire que les enfants de sexe masculin étaient automatiquement tués par les terroristes. Mais Asmamou va prendre la route avec ses 2 garçons et la grossesse qu'elle portait.
Quand tu quittes de notre village, Tony, tu viens au Bani. La nuit que j'ai marché. Et dans la journée aussi, le moment, le midi comme ça, eux, ils rentrent pour se reposer un peu. Donc, en ce temps-là que je profitais. Et puis, sinon, si on te voit aussi, soit toi ou soit tes enfants. Voilà, on te fait beaucoup de mal jusqu'à ce que tu ne pourrais pas vivre encore.
Tony, puis banni dans le nord du Burkina, ensuite Ban, avant de débarquer à Waigbia, plus d'une centaine de kilomètres à pied et à moto. Enfin, elle et ses enfants arrivent à Ouaga, emmenés gracieusement par une bonne volonté.
Et je suis venue, je ne me suis pas assise, malgré avec la grossesse. Je travaille pour pouvoir nourrir les enfants. Je remercie vraiment les Burkinabés. Oui, je travaille, malgré ça aussi. Ils voient que vraiment la femme a besoin, et eux aussi m'aident à manger, à des vêtements.
Nettoyage, lessive, cuisine, coiffure pour la désormais réfugiée. Pas question de trier les jobs. comme elle, le Burkina accueille plus de 36 000 réfugiés sur son territoire, en dépit de la crise que traverse le pays. Des réfugiés constitués majoritairement de Maliens, à l'image de Dramane Maïga, arrivé au Burkina en 2012. Il a dû fuir Gao avec ses 12 enfants. Depuis quelque temps, il travaille dans un comité mis en place par l'ONG Credo, appuyé par le HCR.
Chaque mois,
ça nous permet d'avoir de l'argent chaque mois pour prendre soin des nôtres. Sinon, ça ne va pas. Le Mali et le Burkina vivent le même problème maintenant. On a de l'aide, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Mais avec certaines ONG, on arrive à avoir de quoi payer un sac de riz pour la famille. On rend grâce à Dieu.
Plus de 80 000 Burkinabés sont réfugiés dans les pays voisins et 2 millions sont des déplacés internes. Et cela, Asmamou et Dramane en sont conscients. Leur souhait est que le Burkina continue de leur apporter son appui. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. En Guinée, les femmes revendiquent plus de visibilité en politique. En 2 ans de transition après le coup d'État, les femmes d'une vingtaine de partis se sont regroupées au sein d'un mouvement dit la Guinéenne en politique. Ce mercredi, elles ont lancé le projet « Renforcement de l'influence des femmes dans le processus de paix pour une transition inclusive ». Nathalie Barge a joint à Conakry Makale Camara, présidente du Front pour l'Alliance nationale.
Nous voulons être reconnus dans cette transition et avoir notre place. C'est pourquoi d'ailleurs la Guinée en politique déjà en 2022 a fait 2 propositions de loi au CNT, au Conseil national de transition. Une première proposition sur la parité. Nous souhaitons que la parité qui avait déjà d'ailleurs depuis 2009 été votée par l'Assemblée d'alors mais qui n'a pas eu à se promulguer, que cette loi puisse revenir dans la constitution présente. Et la deuxième proposition que nous avons faite, c'est l'observatoire des droits des femmes. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des lois si elles ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, donc, ce projet est pour nous permettre de nous impliquer sur la transition. Le dialogue est conduit aujourd'hui par 3 éminentes femmes, mais nous n'avons pas fini de parler parce qu'il y a encore des partis politiques qui ne sont pas autour de la table. Les femmes pensent donc qu'il faut qu'elles démarchent au sein des états-majors des partis politiques, au niveau du CNRD qui est autorité gouvernementale aujourd'hui, au niveau du CNT qui fait office de parlement, pour que tout ce beau monde-là puisse se parler et avancer vers des élections constitutionnelles, des élections comme nous les attendons dans ce pays.
Vous-même, vous avez déjà été candidate à une présidentielle et l'on parle souvent de la question du financement. Nous savons que dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs femmes ont été obligées d'abandonner la course parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Est-ce qu'il est prévu des structures spéciales pour promouvoir un petit peu donc les campagnes féminines et en les soutenant au niveau financier ?
C'est une des questions desquelles nous allons nous saisir, puisque la Constitution est en rédaction. Donc la prochaine proposition de loi que nous allons faire, c'est d'aider les femmes en politique, de les subventionner pour qu'elles puissent avoir le courage de compétir et d'être là. Il faut que les femmes trouvent leur place autour de la table de discussion. Et c'est la politique qui nous mène autour de la table de discussion et le pouvoir s'acquiert à travers la politique. Il faut donc que les autorités de nos pays acceptent de subventionner les partis qui acceptent le positionnement des femmes sur les listes électorales et en bonne place. Toutes les femmes qui s'amènent là, ce sont des femmes vraiment qui viennent les compétir sur leur terrain de sélection.
À ce propos, qu'en est-il de la place des femmes aujourd'hui dans la transition militaire? Est-ce qu'elles ont plus d'espace au niveau politique que durant l'ancien régime?
Je ne dirais pas ça. Je sais qu'au Parlement aujourd'hui, on a au moins 30% de conseillères dans l'organe qui tient lieu de Parlement, le Conseil national de la transition. Sur 81 conseillers, il y en a 26 femmes, ce qui fait 36%. Au gouvernement, nous avons 7 femmes sur plus d'une vingtaine. Je ne dirais pas que les femmes sont mieux mises en position. ou en pole position. Je disais tout simplement qu'il faut qu'on continue de se battre puisque le ministre de la Femme est en train d'élaborer le compendium des compétences féminines pour répertorier par domaine de compétences les femmes. On pourra mettre une visibilité sur les femmes, on pourra les identifier et les trouver quand on en a besoin.
Makale Camara, présidente du mouvement LGP, la Guinéenne en politique. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.